Les recensements coloniaux britanniques en Inde, 1871-1941. Venons-en maintenant aux matériaux que nous ont laissés les recensements organisés dans l'Empire des Indes par le colonisateur britannique. La révolte réprimée de 1857-1858 avait effrayé la puissance coloniale et l'avait convaincue de la nécessité d'une administration directe. Pour cela, il était nécessaire de mieux comprendre les systèmes fonciers en vigueur en Inde, notamment pour lever l'impôt. Il était également essentiel de mieux connaître les élites locales et les structures sociales, et tout particulièrement les castes que l'on saisissait mal et dont on craignait qu'elles puissent nourrir des solidarités et des révoltes futures. Des premiers recensements expérimentaux furent menés en Inde du Nord dès 1865 et 1869 dans les provinces du Nord-Ouest et dans l'Oud, ce qui, dans le découpage administratif du début du British Raj, correspondait grosso modo à la vallée du Gange et à l'actuel Uttar Pradesh. 204 millions d'habitants au recensement de 2011 et déjà plus de 40 millions à l'époque. Puis le recensement fut étendu à l'ensemble de la population de l'Empire des Indes en 1871, soit quelque 239 millions d'habitants, dont 191 millions dans les territoires sous administration directe et 48 millions dans les États princiers sous tutelle britannique. Le recensement de 1871 fut ensuite reconduit en 1881 et 1891 et tous les 10 ans jusqu'en 1941. Les centaines d'épais volumes publiés par les Britanniques après chaque recensement, présentant pour chaque province et district des milliers de tableaux croisant les castes avec les religions, les professions, les niveaux d'éducation et parfois l'ampleur des propriétés terriennes, en disent long sur l'immensité de cette entreprise éminemment politique que furent les recensements coloniaux, qui mobilisèrent des milliers d'agents recenseurs sur des territoires très étendus. Menées dans les différentes langues indiennes, puis traduites en anglais, les opérations des recensements aboutirent à la production de dizaines de milliers de pages. Ces documents, et plus encore les multiples rapports et brochures, décrivant parfois les hésitations et les doutes des administrateurs et savants coloniaux, nous en disent long sur la nature du processus colonial, au moins autant que sur les réalités sociales de l'Inde de l'époque. Les Britanniques abordèrent initialement l'exercice au travers du prisme des quatre Varnas du Manusmriti. Mais ils se rendirent vite compte que ces catégories n'étaient guère opératoires et que les personnes recensées se reconnaissaient dans des identités de groupe qui étaient à la fois plus fines et plus fluides, les Jatis. Le problème est que les agents coloniaux n'avaient aucune liste complète des Jatis à leur disposition et que les personnes en face d'eux avaient des opinions extrêmement diverses sur les Jatis les plus pertinentes et les regroupements à opérer. Elles s'identifiaient souvent elles-mêmes à de multiples groupes. Beaucoup d'Indiens devaient aussi se demander pourquoi ces étranges seigneurs britanniques et leurs agents recenseurs s'intéressaient tant à leurs identités, leurs professions, leurs habitudes alimentaires et leur demandaient avec tant d'insistance de classer et d'ordonner tout cela. Lors du recensement de 1871, on dénombra 3208 castes différentes, au sens des Jatis. En 1881, le total monta à 19 044 groupes distincts, en incluant toutes les sous-castes. La population moyenne par caste était de moins de 100 000 individus dans le premier cas et de moins de 20 000 dans le second. Il s'agissait donc le plus souvent de petits groupes socio-professionnels locaux représentés sur des segments limités du territoire indien. Il était bien difficile de mettre de l'ordre et de produire de la connaissance à l'échelle impériale avec une telle grille d'analyse. Pour se faire une idée de la tâche, on peut essayer d'imaginer comment auraient procédé des souverains indiens prenant le contrôle de l'Europe au XVIIIe ou au XIXe siècle, au moment de recenser la population du continent, de la Bretagne à la Russie et du Portugal à l'Écosse, et de la ranger dans des catégories socio-professionnelles, religieuses et alimentaires. Sans doute aurait-il inventé des grilles d'analyse qui nous surprendraient aujourd'hui. Mais le fait est qu'en produisant ces grilles et en les utilisant dans leurs pratiques administratives et leur système de gouvernement, les colonisateurs britanniques eurent un impact profond et durable sur les identités elles-mêmes et sur la structure de la société indienne. Certains administrateurs coloniaux tentèrent aussi d'explorer la voie racialiste. Il partait du principe qu'une partie de la mythologie hindoue évoquait des origines raciales anciennes au système de Varnas, liées à la conquête. Des Aryens, venus du nord et à la peau claire, seraient arrivés dans la vallée du Gange, puis en Inde du Sud, peut-être au début du deuxième millénaire AEC, en provenance de l'Iran, et ils seraient devenus les Brahmanes, les Kshatriyas et les Vaishyas. Alors que les populations autochtones à la peau plus sombre, voire franchement noire pour les habitants des régions les plus méridionales du sous-continent, seraient devenus les Shudras asservis. Un grand nombre d'administrateurs et de savants se mit donc à mesurer la taille des crânes et celle des mâchoires, à examiner les nez et les textures des peaux, dans l'espoir de trouver le secret des castes indiennes. Herbert Risley, ethnographe qui devint commissaire du recensement de 1901, insistait sur l'importance stratégique du terrain indien pour permettre aux Britanniques de dominer les recherches sur les races et de distancer les Allemands et leurs savants, particulièrement actifs à l'époque sur ces questions. En pratique, cette approche raciale ne conduisit à aucun résultat tangible, tant les différentes origines ethnico-raciales étaient mêlées et présentes dans la plupart des castes. En 1885, John Nesfield, un administrateur qui avait été chargé de réfléchir à de nouvelles classifications mieux à même de décrire les réalités sociales indiennes, et qui considérait que les castes devaient avant tout être comprises comme des groupes sociaux professionnels, avait déjà fait remarquer le peu de pertinence de la théorie raciale. Il suffisait, selon lui, d'aller à Benares et d'observer les 400 jeunes brahmanes étudiant dans la plus prestigieuse des écoles de sanskrit pour constater qu'on y trouvait toute la palette des couleurs de peau présentes sur le sous-continent indien. Risley avait lui-même sa propre théorie à ce sujet. D'une part, les brahmanes s'étaient beaucoup mélangés entre le temps des invasions aryennes au début du deuxième millénaire AEC et l'époque où le Manusmriti leur avait recommandé une stricte endogamie autour du deuxième siècle AEC. D'autre part, la concurrence du bouddhisme, particulièrement vive du cinquième siècle AEC jusqu'au cinquième siècle de notre ère, aurait conduit les brahmanes à promouvoir dans leur rang de nombreux membres des basses castes. Enfin, de nombreux souverains et rajas hindous auraient eux-mêmes été amenés au fil des siècles à créer de nouvelles classes de brahmanes lettrés pour faire face à l'indiscipline des brahmanes disponibles. De façon générale, le témoignage d'un administrateur comme Nesfield est beaucoup plus instructif que ceux des ethnographes racialistes comme Risley ou Edgar Thurston, car il rapporte des formes d'échanges intéressants avec les populations recensées. Son analyse n'est certes pas exempte de ses propres préjugés et de ceux de ses interlocuteurs, qui sont surtout issus des castes élevées, mais le fait est que ces préjugés sont en soi significatifs. Nesfield explique par exemple que les aborigènes et les intouchables se sont placés eux-mêmes par leur comportement en dehors de la communauté hindoue. Ce sont notamment des groupes de chasseurs, vivant dans les forêts ou en marge des villages, dans une saleté inimaginable, toujours à la limite de la rébellion ouverte et de la rapine. Ils sont exclus d'accès au temple, d'autant plus que leurs mœurs sont déplorables. En cas de besoin, ils n'hésitent pas à prostituer leurs propres filles. Cette partie du récit de Nesfield fait davantage penser par les descriptions topographiques aux tribus aborigènes isolées qu'aux intouchables proprement dit, même si, dans son témoignage, la différence entre les deux groupes n'apparaît pas toujours très claire, s'agissant notamment d'habitats proches des villages et relativement éloignés des zones boisées ou montagneuses généralement associées aux aborigènes. Il s'agit surtout de groupes dont le mode de vie s'éloigne radicalement de la norme. Nesfield ajoute que ces groupes de parias comprennent également certaines petites castes agricoles dont les mœurs et les habitudes alimentaires les rattachent aux castes les plus basses. Il cite en particulier ceux qui se nourrissent encore de ragondins et autres petits rongeurs des champs, field rats, pratique lamentable pourtant proscrite il y a des siècles par le Manusmriti. Il s'agit aussi de professions spécifiques comme les chamars et les scavengers en charge du ramassage des déchets humains, des détritus et des carcasses, dont les mœurs familiales sont également très douteuses d'après les informations recueillies par Nesfield, qui note aussi leur trop fréquente tendance à l'ivresse et à une regrettable promiscuité. Nesfield est par ailleurs convaincu que les savoir-faire les moins élaborés, par exemple la fabrication de petits paniers, activité dont il note qu'elle est prisée des très basses castes indiennes comme des gypsies et autres roms en Europe, correspondent aux classes sociales les moins prestigieuses, et à l'inverse, que l'élévation dans l'échelle sociale correspond à des compétences professionnelles plus sophistiquées, comme la poterie, le textile et tout en haut de la hiérarchie artisanale, la métallurgie, les verriers, les bijoutiers et les tailleurs de pierre. Il en va de même pour les autres activités. Les chasseurs sont moins prestigieux que les pêcheurs, qui eux-mêmes le sont moins que les cultivateurs et les éleveurs. Les baniyas, commerçants, les plus importants, adoptent quant à eux des mœurs leur permettant de s'approcher des brahmanes, en particulier en interdisant le remariage des veuves. Nestfield note également que les anciens guerriers kshatriya, que l'on retrouve sous forme de rajput, terme qui désignait initialement des personnes de sang royal, et de kshatri, dérivation de kshatriya et de kshatra, terme qui désignait le propriétaire d'un domaine terrien, ont beaucoup perdu de leur prestige sous la domination musulmane puis britannique. Certains ont trouvé à s'employer comme militaires ou policiers au service des colonisateurs. Beaucoup vivent de leur rente foncière, d'autres encore végètent. Nestfield précise que les brahmanes ont depuis longtemps diversifié leurs activités de prêtres et s'emploient principalement comme enseignants, médecins, comptables, administrateurs, tout en empochant eux aussi de confortables rentes foncières de la part du reste des communautés rurales. Tout en reconnaissant que leurs compétences administratives sont beaucoup plus utiles aux autorités coloniales et leurs talents nettement mieux adaptés aux temps modernes que ceux des anciens guerriers désœuvrés, Nestfield considère que ces brahmanes sont décidément beaucoup trop nombreux, jusqu'à 10% de la population dans certaines régions en Inde du Nord, par rapport aux services qu'ils rendent. Au fond, Nestfield trouve que la hiérarchie sociale indienne a une assez belle allure, si l'on excepte toutefois le trop grand nombre de brahmanes qui abusent vraiment de leur position dominante. La conclusion coule de source, il était temps que les administrateurs britanniques les remplacent à la tête du pays. Les effectifs des sociétés trifonctionnelles indiennes et européennes. Voyons maintenant les résultats statistiques qu'il est possible de retenir de ces recensements. De façon générale, les administrateurs coloniaux ne savaient pas trop comment procéder pour regrouper les millions de jatis en catégories intelligibles, et le mode de présentation des résultats a beaucoup varié d'un recensement à l'autre. Certains, comme Nesfield, suggéraient d'oublier presque entièrement les Varnas et d'établir une classification socio-professionnelle entièrement nouvelle, fondée sur la base des métiers et des savoir-faire, qu'ils se proposaient de déterminer de rechef pour l'ensemble de l'Empire. Le choix qui fut fait, dans tous les recensements de 1871 à 1931, consista en réalité à donner une existence unifiée au groupe des Brahmanes et à y rattacher tous les groupes locaux qui s'y apparentaient aux yeux des Britanniques. Une enquête menée à Benares en 1834 avait déjà révélé l'existence de 107 groupes différents de Brahmanes. Dans les communautés qu'il avait étudiées, Nestfield avait lui aussi distingué de nombreux sous-groupes, les Acharjas, supervisant les cérémonies religieuses, les Pataks, spécialisés dans l'éducation des enfants, les Dikshits, en charge des cérémonies d'initiation des deux fois nés, les Gangaputras, assistant les prêtres, les Baidiyas, officiant comme médecins, les Pandés, chargés de l'éducation des castes moins élevées, et ainsi de suite, sans oublier les Kataks et les Bats, qui étaient d'anciens brahmanes, devenus chanteurs et artistes, ou encore les Malis, caste agricole raffinée spécialisée dans la production des fleurs et des couronnes utilisées dans les processions et qui était parfois rattachée aux brahmanes. Nestfield précise que seuls 4% des brahmanes exercent des fonctions de prêtre à plein temps, mais que 60% concourent d'une façon ou d'une autre aux fonctions religieuses, en complément de leur activité principale d'enseignant, de médecin, d'administrateur ou de propriétaire terrien. Il s'agit en quelque sorte d'une bourgeoisie de propriétaires lettrés participant au catéchisme. Au niveau de toute l'Inde, les effectifs de brahmanes dûment répertoriés comme tels par les recensements britanniques sont significatifs. Lors du recensement de 1881, on dénombre près de 13 millions de brahmanes avec leurs familles, soit 5,1% de la population totale recensée, 254 millions. Et 6,6% de la population hindoue, 194 millions. Suivant les régions et les provinces, la proportion de brahmanes peut varier d'à peine 2-3% de la population en Inde du Sud à environ 10% dans la vallée du Gange et en Inde du Nord, avec le Bengale, Calcutta, et le Maharashtra, Mumbai, autour de la moyenne, 5-6%. Concernant les kshatriyas, les rapports des recensements se refusent à donner un chiffre total, car ce terme n'est guère utilisé en tant que tel, et les colonisateurs ont renoncé à le ressusciter. En additionnant les effectifs recensés dans les diverses castes de kshatriyas, et surtout les rajputs, qui forment l'essentiel du total, on aboutit à plus de 7 millions de kshatriyas en 1881, soit 2,9% de la population indienne et 3,7% de la population hindoue, avec là encore des variations régionales, mais moins marquées que pour les brahmanes. L'Inde du Nord est un peu au-dessus de la moyenne et l'Inde du Sud et les autres régions légèrement au-dessous. Au total, on constate que les deux plus hautes castes regroupent autour de 10% de la population hindoue en 1881, 6-7% pour les brahmanes, 3-4% pour les kshatriyas. Un demi-siècle plus tard, lors du recensement de 1931, la proportion de brahmanes a légèrement baissé, de 6,6% à 5,6%, et celle de kshatriyas un peu augmentée, de 3,7% à 4,1%. Mais l'ensemble n'a guère bougé. D'après les recensements, les brahmanes et kshatriyas représentaient 10,3% de la population hindoue en 1881, 9,7% en 1931. Voir graphique 8.3. Si l'on compare ces effectifs avec ceux du clergé et de la noblesse entre le XVIe et le XVIIIe siècle au Royaume-Uni ou en France, pays où la formation de l'État centralisé était déjà très avancée, on constate que les brahmanes et les kshatriyas indiens de la fin du XIXe siècle et du début du XXe siècle sont relativement nombreux. D'après les estimations disponibles, le clergé représentait environ 3% de la population adulte masculine britannique et française au XVIe siècle et la noblesse moins de 2%, soit au total moins de 5% pour les deux ordres privilégiés, contre environ 10% pour les brahmanes et les kshatriyas en Inde à la fin du XIXe siècle. Les ordres de grandeur ne sont toutefois pas incomparables. Il faut également rappeler que d'autres pays européens avaient au XVIIIe siècle des classes cléricales et guerrières pléthoriques par comparaison au Royaume-Uni et à la France. Dans le cas de l'Espagne, on peut estimer que le clergé représentait 4% de la population adulte masculine en 1750 et la noblesse petite et grande plus de 7%, soit au total environ 11% pour les classes cléricales et guerrières, soit un niveau très proche de celui observé dans l'Inde de 1880. Des pays comme le Portugal, la Pologne ou la Hongrie avaient une noblesse qui représentait à elle seule environ 6-7% de la population autour de 1800. Du point de vue des effectifs concernés, les différentes sociétés trifonctionnelles indiennes, avec leurs multiples variantes régionales et européennes, semblent donc relativement proches, avec des variations reflétant notamment les différents processus sociopolitiques de construction de l'État dans les multiples sous-régions des deux continents.